VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Cameroun, au moins 29 personnes ont été blessées dans un attentat suicide perpétré ce mercredi par une femme à Amchide, ville camerounaise de la région de l'extrême nord, régulièrement frappée par des attaques de djihadistes de Boko Haram en provenance du Nigeria voisin. Avant de pouvoir passer à l'action, une deuxième femme kamikaze a été abattue par des soldats déployés dans la ville pour contrer Boko Haram, selon l'armée camerounaise. République démocratique du Congo, 5 médias internationaux ont publié ce mercredi le premier volet d'une enquête sur le meurtre en 2017 de deux experts des Nations Unies dans le pays, selon laquelle l'ONU a été partagée entre quête de la vérité et souci du compromis avec Kinshasa. L'enquête s'appuie sur des milliers de pages de documents confidentiels des Nations Unies et revient sur le rôle trouble attribué à des agents de l'État congolais dans le meurtre des deux experts le 12 mars 2017 dans le Kasaï, région du centre du pays. Politique en RDC, maintenant, des dizaines de milliers de personnes ont salué hier le retour à Kinshasa du tandem Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Les deux opposants ont promis d'aller aux élections du 23 décembre avec ou sans la machine à voter, que d'autres opposants qualifient de machine à tricher. Les détails avec Eddy Issango.
La police a brièvement fait usage des gaz lacrymogènes pour tenter d'accélérer les rythmes du cortège entre l'aéroport de Ndjili et les centres-villes. « Nous irons avec le peuple et nous allons gagner », a déclaré M. Tshisekedi avec Vital Kamerhe, son directeur de campagne, qui a assuré qu'ils vont atteindre carrément les 60% de l'électorat. M. Tshisekedi, 55 ans, est le président et le candidat de l'UDPS fondé par son père Étienne Tshisekedi. M. Kamerhe, 59 ans, est un ancien président de l'Assemblée nationale, ancien directeur des campagnes de Joseph Kabila en 2006 et passé à l'opposition depuis 2011. Le 12 novembre, ils se sont retirés au bout de 24 heures d'un accord entre sept opposants à Genève désignant Martin Fayulu, candidat commun de l'opposition. M. Fayulu a été salué par des milliers de personnes à son retour à Kinshasa mercredi dernier. Il est soutenu par les opposants Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. En face, l'ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari et les porte-drapeaux du Front commun pour le Congo. Et l'élection présidentielle du 23 décembre est un scrutin à un seul tour.
Et en décès toujours, 19 personnes sont mortes en 5 jours de la fièvre hémorragique Ebola dans l'est du pays, portant le bilan à 241 morts depuis la déclaration de l'épidémie le 1er août, selon les statistiques du ministère congolais de la Santé. Du jeudi 22 novembre au lundi 26 novembre 2018, 19 nouveaux décès ont été enregistrés, souligne le dernier bulletin journalier du ministère reçu mardi soir. 74 cas suspects font l'objet d'investigations selon la même source. Politique au Gabon, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, hospitalisé depuis le 24 octobre à Riyad, quittera la capitale de l'Arabie Saoudite aujourd'hui pour Rabat au Maroc. C'est ce qu'a annoncé mardi son épouse Sylvia sur sa page Facebook. Le point avec Morgane Guiriec.
Mercredi 28 novembre, Ali Bongo Ondimba, mon époux, quittera l'hôpital du roi Faisal de Riyad en Arabie Saoudite, a écrit Madame Bongo en ajoutant qu'il arrivera le même jour à Rabat. Madame Bongo Ondimba a souligné qu'elle et son mari tiennent avant toute chose à exprimer leur profonde gratitude à l'endroit des autorités saoudiennes et du corps médical. Pour poursuivre sa convalescence, le président, en concertation avec sa famille proche, a fait le choix d'accepter la proposition d'accueil de son frère, Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI. « Nous lui en sommes extrêmement reconnaissants », a ajouté Sylvia Bongo. Elle a précisé que ce transfert de Riyad à Rabat a été rendu possible grâce à l'amélioration très significative de l'état de santé de son mari, Ali Bongo. Depuis son hospitalisation le 24 octobre à Riyad, la présidence gabonaise n'a jamais précisé le mal dont souffrait le chef de l'État.
Poursuite des violences en Centrafrique, des membres du groupe de Mahamat Tahir alias Apo, chef de milice, ont attaqué lundi des commerçants dans le secteur du PK5 de Bangui, le quartier majoritairement de la capitale centrafricaine. L'un de ces commerçants a été abattu, une scène qui a eu lieu au lendemain du meurtre du chef de milice par un commerçant. Les précisions avec Irénée Herman Ungbo.
Apo a été abattu dimanche par un commerçant qui avait refusé de fermer boutique pendant une journée ville morte décrétée après une fusillade mortelle au PK5. Après cet incident, la MINUSCA a dû multiplier ses patrouilles. Le porte-parole de la mission Vladimir Montero indique cependant qu'il y a un regain de violence ces derniers jours au PK5. Au moins 6 personnes ont été tuées et une vingtaine blessées mercredi et jeudi pendant des accrochages. Le PK5, poumon économique de Bangui, est régulièrement le théâtre de violence. En avril, elles avaient fait plusieurs dizaines de morts et s'étaient propagées, avec notamment des combats autour d'une église catholique le 1er mai qui avait fait au moins 24 morts et 170 blessés. La capitale est relativement calme, mais les massacres se sont poursuivis à l'intérieur du pays, dans des villes comme Alindao, Batangafo ou encore Bambari.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré a affirmé hier ignorer qui a commandité la tentative de coup d'État de 2015. C'était au deuxième jour de sa comparution au procès des putschistes présumés à Ouagadougou. Le point avec Bagassi Koura.
Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire qui a commandité, qui a ordonné le coup d'État, a déclaré le général Gilbert Diendéré. La veille, il avait catégoriquement nié être à l'origine du coup d'État manqué. Il avait pris la tête du Conseil national pour la démocratie, organe dirigeant des putschistes, avant de rendre le pouvoir face à la pression populaire et celle de l'armée loyaliste. Il a été pendant 3 décennies un des hommes forts du pays comme chef du régiment de sécurité présidentielle, l'unité d'élite qui a perpétré le coup, puis chef d'état-major particulier du président Blaise Compaoré jusqu'à sa chute en fin 2014. Golf, comme le surnomme le Burkinabé, est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, trahison et meurtre. Le coup de force a fait 14 morts et 270 blessés en septembre 2015. 84 accusés sont jugés par un tribunal militaire depuis le début du procès en février, dont un autre général, Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères. Maître Séraphin Sommé, avocat de la partie civile, a fait part de sa déception. L'audience doit reprendre aujourd'hui avec les questions du parquet militaire.
La Mauritanie célèbre le 58e anniversaire de son indépendance en 1960. Bir Ramda, leader d'un mouvement anti-esclavagiste, est en prison depuis le mois d'août à la suite d'une plainte déposée par un journaliste. C'est derrière les barreaux que Bir Ramda Abeid a été élu député aux dernières législatives en septembre et il reste toujours en détention. La réaction de Kadiata Malick Diallo, député à l'Assemblée nationale à Nouakchott.
C'est une autre aberration de l'arbitraire, le règlement de compte contre les opposants. C'est tout ce que Oul Abdelaziz sait faire. Et nous avons vu, malheureusement, le député Bir Ramda Oul Abeid amené à l'hôpital pour consultation. Et c'est menottes au poignet qu'il a été présenté à l'hôpital devant des médecins. Et donc, c'est une situation vraiment qu'on ne peut pas qualifier. C'est tout simplement inadmissible qu'on puisse avoir un traitement fait à quelqu'un qui est de surcroît un parlementaire, donc qui jouit d'une immunité. Donc, voilà la situation à Mauritanie.
Kadiata Malick Diallo, député à l'Assemblée nationale à Nouakchott, en Mauritanie. Élection au Nigeria maintenant, une quinzaine d'organes de presse nigérians se sont mis ensemble aujourd'hui pour lutter contre la désinformation en amont de l'élection présidentielle de février 2019 dans le pays, au moment où les principaux partis politiques s'accusent mutuellement de fausses informations. Le projet Crosscheck Nigeria, en collaboration avec le Centre international du journalisme, d'enquête d'Abuja et First Draft, une ONG britannique qui vise à lutter contre la désinformation dans le monde entier, ambitionne de faire travailler ensemble des médias habituellement concurrents pour enquêter et réfuter l'afflux de fausses informations sur les réseaux sociaux. Rappelons que les Nigérians se rendront aux urnes en février 2019 pour élire leur président, leurs députés et aussi leur gouverneur. Et pour terminer, élection à Madagascar, un second tour devra départager le mois prochain les deux anciens présidents malgaches André Rajoel et Marc Ravalomanana, arrivés en tête du premier tour de la présidentielle. C'est ce que révèlent les résultats définitifs proclamés ce mercredi par la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar. Aucun des 36 candidats en lice le 7 novembre n'a obtenu les 50% de voix requis pour être élu dès le premier tour. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique.